réplique, l'État palestinien est-il encore d'actualité, avec Stéphane Amar et Denis Charby. En mars 1978, une lettre signée par un groupe d'étudiants et de membres des kibboutzim servant comme officiers de réserve dans les unités d'élite de l'armée israélienne était adressée au premier ministre de l'époque, Menachem Begin. Le thème de cette lettre était très simple. La paix est préférable au territoire. Le mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant, naissait quelques semaines plus tard, le 1er avril 1978, lors d'un rassemblement populaire regroupant sur la place des Rois à Tel Aviv plus de 40 000 personnes. Nous sommes en 2018. L'urgence a pris du ventre et quelques rides. Arshav est un quadragénaire pas tout à fait chenu, mais de moins en moins vaillant. Si les militants n'ont pas renoncé, ils sont fatigués car les implantations s'étendent et l'occupation s'éternise. Célébrera-t-on dans 10 ans le demi-siècle de la paix maintenant? Ou faut-il d'ores et déjà faire son deuil de l'État palestinien, comme l'affirme dans son livre « Le grand secret d'Israël » le journaliste installé à Jérusalem depuis 2003, Stéphane Amar. Cette thèse, surprenante, iconoclaste même, demande à être discutée. J'ai donc invité, face à Stéphane Amar, l'universitaire israélien spécialiste du sionisme, Denis Charby. Et je vous demanderai sans attendre, Stéphane Amar, pourquoi, selon vous, la solution à deux États ne constitue plus une issue crédible au conflit israélo-palestinien. Stéphane Amar.
L'a-t-elle déjà constituée ? Cela fait bientôt 100 ans qu'on tente de diviser le territoire. Depuis 1937, le plan Peel, qui voulait créer déjà un État juif et un État arabe côte à côte. Il y a eu ensuite, en 1947, le plan de partage de l'ONU et beaucoup plus récemment, les accords d'Oslo. Toutes ces tentatives de partage ont échoué, certaines dans le sang, comme le processus d'Oslo, qui s'est terminé par sans doute le conflit le plus cruel qu'aient pu connaître les Israéliens et les Palestiniens, cette intifada de 2000-2005. Donc je soutiens que le partage du territoire n'est pas la solution, qu'il provoque le conflit, qu'il alimente le conflit d'une certaine manière, et qu'il faut absolument trouver un moyen pour les deux peuples de vivre ensemble.
Denis Charby, je vais demander ce que vous en pensez, mais d'abord, êtes-vous ou avez-vous membre de Shalom Arshav, de la paix maintenant ?
Shalom Arshav n'est pas un parti politique, donc on n'est pas encarté.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, j'ai fait partie, je dirais, de cœur et de raison à ce mouvement, et j'en suis encore, je lui reste fidèle, parce que je persiste à penser que même si on parle aujourd'hui de l'échec de cette partition de la Palestine en deux États, je ne vois pas d'alternative, et j'ajouterais, parce que cette distinction n'est jamais faite, j'ajouterais que ce qui a échoué, ce n'est pas la création d'un État palestinien. Je veux dire par là que, si je suis cette image, c'est un avortement qui a eu lieu. Je dirais une interruption volontaire de grossesse. On n'a pas voulu aller au terme de ce processus d'Oslo qui aurait dû aboutir à la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas un nouveau-né qui serait devenu un monstre. Ça, ça aurait été l'échec d'Oslo. S'il y avait eu un État palestinien et qu'il se serait transformé en puissance hostile à Israël, on aurait pu parler d'échec. Là, on n'a tout simplement pas fait advenir cette solution qui reste encore, me semble-t-il, d'actualité.
Alors oui, justement, c'est la question. Vous dites avortement, un processus s'était engagé. Je me souviens de l'espoir qui a soulevé le monde, en tout cas le monde occidental tout entier, après la célèbre poignée de main de la Maison-Blanche, la poignée de main réticente en plus de Rabin. Arafat, mais réel, on s'est dit, voilà, quelque chose est lancé. Or, le processus a en effet capoté. Et ma question est simple, pourquoi ? Que s'est-il passé ? Qui est responsable de l'échec d'Oslo ? Stéphane Amar.
La poignée de main dont vous parlez, elle vient quelque part inaugurer un processus, mais à ce moment-là, le 13 septembre 1993, il n'y a absolument rien de fait entre Israéliens et Palestiniens. Tous les dossiers les plus compliqués, tout le contentieux israélo-palestinien n'a pas le début d'une solution le 13 septembre 1993. Que ce soit Jérusalem, le tracé des frontières, les réfugiés palestiniens, on a pour l'instant parlé de rien et on décide juste d'entamer un processus. Or, on va s'apercevoir au cours des années que sur ces dossiers, on n'est d'accord sur rien. Il est impossible pour les Israéliens et les Palestiniens de se mettre d'accord sur une frontière, quoique les négociateurs d'Oslo aient pu en dire. Et sur Jérusalem, c'est d'ailleurs sur Jérusalem que le processus a échoué à mon sens, il y a une évidente impossibilité de partage, puisque les deux parties réclament exactement la même chose, et notamment la vieille ville de Jérusalem. Je vous rappelle que les négociateurs avaient envisagé une frontière horizontale, c'est-à-dire qu'ils voulaient donner la surface de l'esplanade des mosquées aux Palestiniens et le sous-sol aux Israéliens. C'est pour vous dire l'absurdité à laquelle étaient arrivés les négociateurs. Donc on est parti finalement, je dirais même pas plein de bonnes intentions, parce que des deux côtés il y avait des arrière-pensées, chaque partie pensait pouvoir dominer l'autre, la manœuvrer, mais on est parti, j'allais dire, sur quelque chose d'extrêmement flou, et ça a terminé avec le drame que l'on sait.
Denis Charby.
C'est vrai que les accords d'Oslo ne sont pas des accords. On l'appelle, non pas juste titre accord d'Oslo, c'est une déclaration de principe. Et la déclaration de principe, elle stipule que il y a une reconnaissance mutuelle. Et là, je ne négligerai pas, comme vous l'avez fait Stéphane Amar, l'importance de la reconnaissance mutuelle. Les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. L'État d'Israël reconnaît l'OLP comme le légitime interlocuteur pour négocier la solution du problème. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est on va mettre une autonomie qui va durer pendant 5 ans. Et au terme de cette autonomie, on va négocier tous les dossiers sans exception. Et je dirais que la faiblesse du processus d'Oslo, c'est effectivement que ce laps de temps qu'on s'est donné a été exploité par les adversaires des deux côtés, israéliens et palestiniens, pour torpiller l'accord et faire qu'il échoue.
Alors, du côté israélien, on a torpillé l'accord en continuant la politique d'implantation, puisque dans les accords d'Oslo, il n'était pas stipulé que les Israéliens ne devaient pas devait plutôt arrêter les colonies. C'est bien cela.
Oui, alors si ce n'est que Yitzhak Rabin et Shimon Peres n'ont pas encouragé un renforcement de ces implantations, elles ne les ont pas non plus gelées pour ne pas se mettre à dos la droite israélienne. Mais on pensait que d'ici 5 ans, le sort serait réglé, alors qu'il y ait 5 000 ou 10 000 de plus. C'était pas si grave que cela. Là où, en revanche, pour la droite, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en 1996, c'est 3 ans après seulement, là, effectivement, on renforce, on multiplie toute l'affaire des avant-postes, et cela va durer jusqu'à aujourd'hui.
Stéphane Amar.
Non, je m'excuse, on ne parle pas de 5 ou 10 000 colons supplémentaires dans l'ère Rabin. On n'a jamais autant construit dans les implantations qu'entre 92 et 96. Seulement, on a construit dans des endroits supposés acceptables pour les Palestiniens. Ça, je le démontre dans le livre. Les Palestiniens n'ont jamais fait de distinction entre la colonisation des alentours de Jérusalem ou celle de Bethel à l'intérieur de la Cisjordanie.
Ah, vous le démontrez dans le livre, mais il y a l'initiative de Genève, signée non pas par les gouvernements, mais par des Israéliens et des Palestiniens. J'étais moi-même à Genève pour saluer cet accord et il était bien stipulé qu'il y aurait un échange de territoire et que les blocs de colonies adossés à la ligne verte resteraient sous la juridiction israélienne.
Alors, Stéphane Amar. Le vrai problème, c'est que ces territoires dont on parle, ces échanges de territoires autour de Jérusalem notamment, ce qu'on appelle les blocs de colonies, se trouvent complètement enchevêtrés dans la population palestinienne. C'est donc extrêmement difficile d'imaginer un État viable qui serait en fait constellé d'implantations juives pour les Palestiniens.
Ouais, alors, vous le dites dans votre livre, en échange d'un semblant d'indépendance, les Palestiniens ont hérité, après Oslo, d'un pays introuvable à la géographie absurde. Mais d'un autre côté, vous ajoutez qu'au lendemain même de la signature des accords, Arafat a prononcé dans une mosquée de Johannesburg un discours où il donnait sa vision de ces accords. Il disait « Le djihad va continuer, Jérusalem n'appartient pas seulement au peuple palestinien, mais à toute la nation islamique, c'est notre capitale, c'est le premier sanctuaire de l'islam et des musulmans. J'ajoute que si Shimon Peres a été battu aux élections après le meurtre de Rabin, c'est parce qu'il y a eu une campagne terroriste du Hamas d'une violence inouïe. Donc le Hamas, si vous voulez, s'est invité dans les élections israéliennes pour faire élire la droite et pour, à travers la droite, lui-même torpiller ce qui restait des accords d'Oslo. Vous êtes d'accord avec cela, Stéphane Amar ?
Je suis d'accord avec cela. À la décharge de Yasser Arafat, que je charge beaucoup quand même dans mon livre, il ne maîtrisait pas le Hamas, le mouvement islamiste. Souvent, ces attentats se faisaient à son corps défendant. En revanche, vous avez pointé la responsabilité israélienne qui est la poursuite de la colonisation. Mais effectivement, la responsabilité palestinienne, c'est ce double langage permanent. Arafat parlant en anglais quand il reçoit le prix Nobel de la paix, et ensuite s'adressant en arabe à son peuple et appelant au meurtre, à la poursuite du djihad. Et comme je vous le disais au début, il y a effectivement beaucoup d'arrière-pensée. Quand Arafat se rend à Oslo, est-ce qu'il veut véritablement la paix avec Israël, ou est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce qu'il s'agit pour lui de prendre pied tout simplement en Cisjordanie pour ensuite poursuivre le combat ? Ça reste extrêmement ambigu de son côté.
Je suis pas certain que ce soit aussi ambigu que cela, parce que si ça avait été le cas, il serait allé en 2000 avec l'État palestinien qu'on lui proposait, et à partir de cette base obtenue, il aurait réalisé cette deuxième étape dont on parle. Or, on voit bien que Arafat résiste avant. C'est donc bien la preuve qu'il est plus sincère qu'on le croit.
Il résiste à quoi avant, vous voulez dire?
C'est-à-dire qu'il ne signe pas avec Ehud Barak les accords de Camp David, ce qui montre bien que ce qu'on lui propose ne lui suffit pas. S'il avait été aussi sournois et aussi insidieux que vous le dites, il aurait accepté ce qu'on lui propose, et puis de là, il aurait constitué la base pour
effacer Israël. On en est à 2000, c'est-à-dire il y a 1993, les accords d'Oslo, la déclaration d'Oslo, 2000, l'espoir renaît, vraiment, c'est Camp David. Une autre image est très forte dans la mémoire, c'est Ehud Barak et Yasser Arafat qui se font des politesses, lequel va entrer le premier dans la pièce où se déroulent les négociations. Toujours est-il que c'est le deuxième grand échec, mais là, aucune poignée de main finale, puisque précisément, les accords ne sont pas signés et... Vous le rappelez dans votre livre, Stéphane Amar, le président Clinton en attribue la responsabilité aux Palestiniens, notamment au négationnisme dont ils font preuve, en ne cessant de répéter qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Et Clinton est atterré par cette déclaration, mais c'est Arafat, c'est aussi le négociateur Saeb Erekat, et Shlomo Ben-Ami, dans le livre qu'il a consacré à cette période, le rappelle très bien. Alors, que dire de cet échec ?
Stéphane Moi, tout simplement, je répondrai à ce que vient de dire Denis Cherby. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Yasser Arafat juge le moment venu de lancer la deuxième phase, en quelque sorte, de l'opération. Il a obtenu une reconnaissance internationale. Il est revenu dans les territoires. Je rappelle qu'il était banni. Il était, on se rappelle, en Jordanie, ensuite au Liban, ensuite à Tunis. Il accède, grâce à ses accords d'Oslo, à un statut inouï. Il était complètement grillé, si j'ose dire, après cette guerre du Golfe où il avait soutenu Saddam Hussein. Il obtient donc non seulement cette reconnaissance, mais aussi une armée, une petite armée certes, mais tout de même une armée,
police.
Mais relativement bien fournie, de l'argent. Et donc à ce moment-là, il se dit, eh bien c'est le moment de lancer la lutte contre Israël. Il est à Ramallah à cette époque-là, donc il est à 20 kilomètres de Jérusalem, et il va se lancer dans une véritable guerre. Quand il rompt d'une certaine manière ses accords d'Oslo, puisque vous le disiez, Bill Clinton et la plupart des observateurs s'accordent sur ce point, c'est bien lui qui a décrété la fin des accords d'Oslo, le retour de la lutte armée, et à ce moment-là, eh bien effectivement, il va se lancer dans une véritable guerre contre Israël, c'est la seconde intifada.
Je pense qu'au sommet de Camp David, les torts sont partagés, mais pas équitablement. Je pense que Arafat porte la plus lourde responsabilité. Il n'a pas su réagir à la proposition de Barak par une contre-proposition. Alors c'est vrai que Barak, on lui a reproché d'être arrivé à Camp David en disant « voilà la proposition et il n'y en a pas d'autre et rien ne se discute ». Alors ça peut être effectivement contribué, mais je pense que c'est incontestablement Camp David a souligné l'ambiguïté d'Arafat. Et quand on a pensé que la seconde intifada était là pour améliorer le rapport de force, on s'est trompé puisqu'on voit que depuis, on est loin du compte.
Bon, alors, ambiguïté persistante des Palestiniens, et même de Mahmoud Abbas, qui, il est vrai quand même, s'est fait élire sur le refus de ce qu'il appelait la lutte armée, pour désigner le terrorisme, mais arrière-pensée du côté israélien, donc visiblement, ça ne marche pas. Mais vous allez plus loin... Personne n'y croit plus, dites-vous Stéphane Hamard. Alors, la question que je pose, quelles sont les alternatives à cette solution de deux États? Est-ce que c'est la perpétuation du statu quo sous une forme de conflict management, comme disent certains stratèges israéliens, ou y a-t-il ici ou là des propositions? Et si oui, quelles sont-elles, Stéphane Hamard?
Alors, je pense que le statu quo a encore de beaux jours devant lui. Effectivement, je pense qu'Israël va continuer d'administrer ses territoires, soutenus tout de même maintenant depuis Oslo, et ça je pense que c'est un des grands acquis d'Oslo, par l'autorité palestinienne, puisque les Palestiniens ont une autonomie qui se résume en vérité à une autonomie municipale. Ils peuvent s'occuper de leurs routes, de leurs écoles, et encore quand l'autorité israélienne ne met pas de bâton dans les roues, mais ça reste une autonomie tout de même. Les solutions alternatives qui sont en train de se dessiner, en tout cas telles que je les perçois, c'est une annexion progressive de la Cisjordanie à Israël et une indépendance de la bande de Gaza. Alors, une annexion de la Cisjordanie parce que Israël a une dynamique démographique qui lui est favorable et qui lui permet d'envisager à terme de faire des Palestiniens des citoyens d'Israël. Je vous rappelle qu'il y a déjà en Israël 2 millions de citoyens arabes, pour la plupart musulmans, mais une partie également de chrétiens qui ont des droits, qui votent, qui sont représentés à la Knesset, qui ont des positions d'ailleurs parfois très élevées, comme juge à la Cour suprême, directeur d'hôpitaux. Le numéro 2 d'Apple dans le monde est un arabe israélien formé au Ternion à Haïfa. Donc je pense que c'est une intégration réussie. C'est le laboratoire finalement grandeur nature, puisque depuis 70 ans, ces Arabes vivent en tant que citoyens israéliens. Et ce dont il s'agit maintenant, c'est de faire des Palestiniens, des Arabes israéliens, de les rendre citoyens d'un grand État qui irait donc de la Méditerranée au Jourdain. Gaza, encore une fois, devient dedans.
Mais il y a des Palestiniens qui finalement réfléchissent à cette possibilité et qui se disent, puisqu'il n'y a pas de deux États, on va en avoir un. Mais ils ont peut-être aussi l'idée qu'à un moment donné, plus ou moins lointain, ils deviendront majoritaires, ou du moins il y aura autant d'Arabes que de Juifs en Israël, ce qui en tout cas modifierait complètement l'esprit même d'Israël, parce qu'au départ, c'est quand même un État juif.
Mais c'est le grand cauchemar de la gauche. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Shalom Arshav s'est créé. C'est en disant, si nous ne séparons pas des Palestiniens, il faudra les annexer, ils deviendront majoritaires, et ils vont nous submerger démocratiquement, démographiquement. C'est un peu ce qui s'est passé d'une certaine manière avec l'Afrique du Sud. Un homme, une voix, donc les Noirs, mécaniquement, ont pris le pouvoir. Seulement, effectivement, le rapport démographique évolue, les tendances démographiques évoluent, le taux de fécondité désormais des femmes juives et celui des femmes arabes sont extrêmement proches. Donc, beaucoup maintenant en Israël se disent, pourquoi pas essayer d'intégrer ces Arabes plutôt que de se séparer d'eux.
Alors, je voudrais dire qu'à propos de ce projet d'État binational, il y a en moi beaucoup de choses qui me précipitent à adopter cette idée-là. La cité harmonieuse de Peggy, la cité du soleil de Campanella, j'ai beaucoup travaillé sur les utopies sionistes. C'est vrai que spontanément, on voudrait dire enfin, on va retrouver cette fraternité des enfants d'Abraham. Mais l'histoire est tragique, nous a rappelé Raymond Aron. Je pense également à André Glucksmann qui disait combien de fausses communes au nom de fausses communes. Et je ne peux pas oublier que si la nation pose beaucoup de questions, qu'est-ce qu'une nation de cet ordre-là? À quoi ça ressemblerait? J'ai le sentiment que la nation, c'est pas simplement le contrat social, c'est pas simplement le plébiscite de tous les jours. C'est aussi une histoire commune. Et ce que l'on peut faire avec 20% d'Arabes israéliens, qui peut-être demain deviendront 25%, compte tenu effectivement de ce fléchissement démographique dont vous parlez. Vous pouvez pas le faire. Et pas simplement avec 51% d'Arabes, mais même avec 40 ou 45. Vous pouvez avoir des symboles de l'État, comme le drapeau bleu-blanc, un hymne national qui ne dit rien aux Arabes israéliens, tant qu'ils sont 20%. Si vous en intégrez 5, 10, 15, 20 et 25, à 40%, ça ne marchera pas. Et puis j'ajouterai autre chose, on a des modèles, on a la Belgique, on a la Suisse, mais en Belgique, les Flamands vivent en Flandre, les Wallons vivent en Wallonie et vous avez Bruxelles comme vitrine. En Suisse, vous avez la Suisse alémanique et vous avez la Suisse romande et donc quand spatialement ils ne sont pas sur le même territoire, ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher lorsqu'ils sont imbriqués. Alors je ne dis pas que la solution à deux États ne pose pas de problème, mais elle a une vertu, c'est qu'elle oblige les uns et les autres à faire un travail de deuil sur la région qu'ils estiment être la leur, mais à laquelle ils devraient renoncer. Et c'est donc, je dirais, c'est par un pessimisme sur la nature humaine que je recommande cette solution difficile de deux États, plutôt que de cette utopie qui pourrait se transformer dans le sang.
Stéphane Amar.
Le problème, justement, puisque vous parlez d'espace, c'est que chaque nation convoite le territoire du voisin. Le plus important pour les Palestiniens, c'est pas Ramallah, Naplouse ou Hébron. Le cœur de la Palestine, c'est Lod, c'est Haïfa, c'est toute la plaine côtière. Et j'ai rencontré des réfugiés dans mon livre qui me disent, moi, tant que je ne retournerai pas à Lod, tant que je ne retournerai pas à Ramallah, qui aujourd'hui sont des villes israéliennes, il n'y aura pas la paix. C'est, je pense, une des principales raisons de l'échec des accords d'Oslo. Pour les Juifs, c'est exactement la même chose. Le cœur historique de la nation juive se trouve sur l'axe Naplouse, Jérusalem, Hébron. Si vous ouvrez une Bible, vous ne entendrez parler que de ces lieux-là. Herzl, qui est mort 5 ans avant la création de Tel Aviv, n'imaginez évidemment pas un autre Israël que celui-là. Et c'est ce territoire dont on voudrait priver la nation israélienne dans le cas d'un accord de paix. Ça ne peut pas marcher pour des raisons simplement d'identité, pour des raisons essentielles.
Oui, mais Denis Charby, Stéphane Amar, vous rappelez la nécessité pour les deux nations de faire le deuil de quelque chose. Or, les Palestiniens, certains d'entre eux, en effet, refusent ce deuil. Et ils ont une vision alternative aux deux États qui peut apparaître, et d'ailleurs vous le dites même dans votre livre, cauchemardesque. Je veux parler de ce mouvement qui a un énorme succès dans les campus américains et bientôt du monde entier, le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Son chef, Omar Barghouti, ne cache pas son jeu. Il est contre, il veut boycotter tous les produits de tous les artistes, de tous les universitaires israéliens, d'où qu'ils soient. Mais il rêve, vous le dites, de rayer Israël de la carte. Et justement, il pense, il est en droit d'exiger le retour des réfugiés. Vous en parliez. Alors, les réfugiés aujourd'hui, par je ne sais quel miracle démographique et arithmétique, ne sont plus 700 000, ils sont 4 millions. Ils sont 4 millions. Ben, ce retour des réfugiés, ce serait évidemment la fin du sionisme, mais même la fin de la possibilité pour les Juifs de vivre sur ce qu'ils considèrent comme leur terre. Donc, justement, que répondre à une telle demande? Si elle ne peut pas être satisfaite, ne faut-il pas en revenir, justement, à cette solution des deux États, aussi dure à accepter soit-elle pour les deux parties?
Effectivement, le BDS se dit il faut passer d'une lutte à l'algérienne à une lutte à la sud-africaine. Il faut non pas réclamer le départ des Israéliens, mais les submerger. Toute la question maintenant est démographique. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est qu'Israël joue la montre. Israël se dit finalement, la démographie nous devient favorable. Ariel Sharon, en sortant 7000 juifs de la bande de Gaza, a sorti du même coup 2 millions de Palestiniens de l'équation démographique. Nous faisons de plus en plus d'enfants. Nous avons un réservoir démographique considérable. C'est le réservoir de l'immigration juive, de l'Alia. Vous savez que Israël scrute de très près ce qui se passe en France, la condition des juifs de France. Mais on se tourne également vers le réservoir américain qui est considérable. Il y a autant de juifs quasiment aux États-Unis qu'en Israël. Personne n'avait prévu qu'un million de juifs d'ex-URSS débarqueraient en moins de 10 ans en Israël. Ça a d'ailleurs beaucoup joué. On dit même que Yasser Arafat est allé à Oslo parce qu'il avait vu cette arrivée des juifs russes et il se disait il faut négocier tant qu'on a un rapport démographique qui nous est favorable. Donc Israël se dit bien prolongeons ce statu quo. La violence, je le montre dans le livre, et de très faible intensité désormais. Comme vous le disiez, l'occupation militaire est gérée par Israël au quotidien. Donc, quand nous serons les plus nombreux, il y a déjà, Naftali Bennett a déjà des plans d'annexion partielle sur certaines parties de la Cisjordanie, mais on voit très bien que c'est une annexion rampante qui est en marche, et Israël se dit, le temps joue pour nous, quand nous serons assez nombreux, nous intégrerons ces Arabes, et les plans du BDS seront déjoués, puisqu'ils pourront, effectivement, comme le font les députés arabes israéliens de nos jours à la Knesset, ils pourront réclamer un État qui ne soit plus un État juif, mais ils n'y arriveront pas, parce qu'ils ne seront jamais assez nombreux.
On est bien d'accord qu'il y a une annexion rampante. Je dirais même que c'est sur le seul point sur lequel l'extrême droite israélienne et l'extrême gauche israélienne ou internationale est d'accord. C'est-à-dire que Israël n'a pas l'intention de quitter les territoires. Mais à quel prix? Alors c'est vrai que ce n'est pas l'isolement diplomatique auquel on aurait pu s'attendre. C'est vrai, Israël n'est pas isolé aujourd'hui diplomatiquement parce que elle fournit du renseignement à l'Europe et au monde, parce que sa puissance technologique fait qu'on est intéressé à avoir des rapports avec elle. Mais Quel sera le caractère de cet État d'Israël dans lequel vous avez une, c'est plus une minorité de 20% encore une fois, mais 35-40, car ces prévisions démographiques dont vous parlez, elles sont vraies pour l'État d'Israël, elles ne sont pas vraies pour la Cisjordanie. Alors moi, ce qui me trouble, ce n'est pas le projet en tant que tel, c'est de sauter l'étape de deux États, que deux États indépendants décident, compte tenu de l'exiguïté des deux territoires, de alors on n'a pas de charbon et d'acier, donc on fera pas ça par une communauté comme on l'a fait pour l'Europe, mais qu'on favorise, qu'on permette d'ouvrir, de faire de cet espace Israël-Palestine un espace Schengen, si vous voulez, de libre circulation entre les deux, c'est très bien. Mais si on ne respecte pas, s'il y a trop peu de nations, il n'y aura plus, on tuera la nation, et de ce fait-là, le projet sioniste n'aura plus d'importance. Et moi, je comprends bien pourquoi les Palestiniens hésitent. Ils hésitent parce que ce qu'on leur propose, c'est un État palestinien sur 22% de la Palestine. Je regardais, en préparant cette émission, regardez en Irlande. Quand on a dit aux Irlandais, vous n'aurez pas l'Ulster, mais vous aurez tout le reste de la République irlandaise, du territoire irlandais, c'était 78% pour l'Irlande et 22% de l'État. Là, c'est le contraire qu'on leur propose. Donc, je comprends pourquoi les Palestiniens ne veulent pas cette idée de deux États comme ça, spontanément. On voit bien que mais d'un autre côté, cette idée d'un flux de réfugiés qui irait librement, ou en Israël, ou en Cisjordanie, je pense que là, derrière, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et c'est à l'enfer qu'on va directement.
Alors bon, sur les réfugiés, je pense qu'aucun responsable israélien envisage en aucune manière de retour massif de réfugiés. C'est une histoire qui s'est passée il y a 70 ans. La plupart des descendants, des réfugiés dont on parle sont en fait des descendants de réfugiés, ne sont pas vraiment des réfugiés. Il y aura peut-être des processus d'indemnisation. Quelle forme institutionnelle prendra cet État? Personne ne le sait exactement. Mais ce que je vous reproche, si vous voulez, Denis, c'est d'avoir une approche quantitative, je dirais même comptable du problème. Comme si à 25% c'était acceptable, à 30 ça ne l'est plus, à 35 c'est une catastrophe. Il y a aussi la qualité. Que veulent ces gens? Parlez avec les Arabes israéliens, vous verrez qu'ils n'ont aucune hostilité par rapport à cet État dans lequel ils vivent et dans lequel ils s'épanouissent, il faut bien le dire.
Ils s'épanouissent, oui. Vous dites ils s'épanouissent, c'est-à-dire qu'en effet, vous citez une statistique extraordinaire, une très grande majorité des Arabes israéliens, dont certains même se disent palestiniens d'Israël, veulent rester dans l'État d'Israël. 77%, mais quand vous allez chercher, c'est les Druzes, c'est 98%, et chez les Arabes chrétiens, c'est aussi très élevé. Mais d'un autre côté, la critique d'Israël va bon train, et surtout, les mêmes se disent victimes de discrimination. Voilà, ils dénoncent les discriminations dont ils sont l'objet, mais ils affirment aussi qu'ils sont beaucoup mieux en Israël que dans un État palestinien qui serait sans doute caractérisé par la corruption et peut-être par une certaine forme de tyrannie, puisque c'est l'état des choses aujourd'hui sous le joug de l'autorité palestinienne.
Absolument.
Stéphane Amar.
Ils souffrent de discrimination, c'est vrai, mais je dirais comme beaucoup de minorités dans le monde. On entend en France, par exemple, beaucoup de récriminations contre la République, de gens qui sont citoyens, qui sont nés ici et qui estiment qu'ils sont moins bien traités que les autres. Donc ce sont des problèmes qui se règlent. Le débat est très ouvert en Israël et je dirais que les choses s'améliorent très objectivement. Le statut des Arabes israéliens est loin d'être catastrophique. Au contraire, hein, je vous le disais, il y a une véritable intégration. Et je dirais même que je trouve fructueuse cette cohabitation entre juifs et arabes en Israël. Il se passe beaucoup de choses à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel, au niveau scientifique, au niveau économique, évidemment. Et je pense que l'histoire l'a montré, encore une fois, puisque depuis 70 ans, juifs et arabes vivent dans le même État. Les deux peuvent parfaitement coexister.
Le problème, je vais vous dire où il est. Encore une fois, le modèle comme tel est très séduisant. Je ne le conteste pas. Seulement, est-ce qu'on le fera d'égal à égal, de partenaire à partenaire, sans la dimension quantitative, parce que vous me l'avez reproché, ou bien on va le faire au nom d'une hégémonie où on dit en quelque sorte, c'est nous qui décidons de votre sort. C'est exactement ce qui vient de se passer avec cette loi sur l'état de nation du peuple juif. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce modèle est fondé sur deux partenaires qui se réconcilient, alors on peut effectivement l'envisager, quand bien même, ne l'oubliez pas, vous aurez du jour au lendemain près de 50% des Palestiniens qui voteront Hamas et 20-25% de Juifs qui votent pour des partis sionistes religieux. Je ne donne pas cher des libertés fondamentales dans cet État dans lequel vous avez autant de militants du Hamas que de militants théocrate.
En plus, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que dans un État-nation, les divergences se font jour entre gens qui ont la même appartenance, la même histoire, qui assument le même destin, qui vivent le même projet. Là, effectivement, on a l'impression que de toute façon, les Arabes voteront pour des partis arabes, les Juifs pour des partis juifs, et s'il est vrai qu'il y a non plus 20% d'Arabes, mais 40 ou 45%, on se demande, si vous voulez, ce qui subsistera d'une véritable démocratie, quand bien même le droit de vote serait respecté, Stéphane.
Alors d'abord, les Arabes sont 20%, mais il n'y a que 10% de députés arabes à la Knesset, des listes arabes. Il y a des députés arabes sur les listes du Likoud, sur les listes du Parti travailliste. Donc tous les Arabes ne votent pas forcément pour des partis arabes, même si le vote arabe, c'est vrai, s'est renforcé ces dernières années. Deuxièmement, nous sommes au Proche-Orient, nous ne sommes pas en France. C'est effectivement, ce n'est pas une république où il s'agit d'intégrer et quelque part de fondre dans le même moule tous les citoyens. Vous avez dans la région, par exemple au Liban, des pays où il y a différentes confessions, différentes communautés.
Mais ils ont une langue commune dans ces cas-là. Et là, on ne l'a même pas. Je veux dire, on se rend pas compte.
Je pense que tous les Arabes israéliens parlent l'hébreu. D'ailleurs, cette loi dont vous parliez, elle est venue quelque part valider une réalité. On n'a jamais plaidé en arabe dans un tribunal israélien. Je pense qu'aucun juge qui soit arabe ne comprend l'arabe.
Justement, pour savoir un peu si Israël peut et doit demeurer un État juif, ce qui est quand même le projet originel du sionisme, toutes tendances confondues, je voudrais qu'on en revienne à cette loi. On en a parlé en France, mais on ne s'est pas vraiment attardé dessus. Si j'ai bien compris, le caractère juif de l'État d'Israël a été inscrit à l'initiative du gouvernement, par un vote de la Knesset, dans la loi fondamentale. Pourquoi ce geste? Qu'est-ce que cela signifie? Ne savait-on pas déjà qu'Israël était un État juif? Denis Charby.
Alors je pense qu'il y a des considérations électorales qui ont présidé à cette décision, puisqu'on rentre maintenant dans un climat préélectoral pour des élections qui se tiendront vraisemblablement dans la première partie de l'année 2019. Je dirais que ce qu'il y a pour moi de terrible dans cette loi, et c'est pour ça que je l'ai condamné ouvertement, c'est que tout le projet d'Israël repose sur deux piliers. C'est un État juif et c'est un État démocratique. Et c'est pourquoi dans la déclaration d'indépendance, vous avez une première partie qui parle de l'État juif et vous l'histoire juive et la légitimité d'un État juif sur cette terre. Et vous avez ensuite, même si le mot de démocratie n'est pas prononcé, vous avez toutes les garanties démocratiques qui sont inscrites. Toutes les lois fondamentales qui traitaient de cela mettaient en valeur et à égalité ces deux aspects, un pilier ethno-confessionnel et un pilier démocratique. Cette loi sur l'État-nation du peuple juif est critiquable, non pas tant par ce qui y est écrit, mais par l'omission du principe de l'égalité et de la démocratie dans le texte. Et c'est une manière de dire, alors c'est vrai qu'on l'a fait autour de la langue, personne n'a contesté l'hégémonie de la langue hébraïque, mais faire que deux langues qui avaient un statut officiel décrétées, que l'une la conserve et l'autre on la supprime, c'est quelque chose qui est sans précédent. La France a décrété que le français était une indivisible, mais il n'y avait pas jusque-là plusieurs langues officielles et dont qu'on aurait supprimé. Et je pense que la signification de cette loi, c'est de dire en quelque sorte aux Arabes israéliens, vous êtes notre proie, nous pouvons faire de vous ce que nous voulons parce que nous avons une majorité sociologique et que nous pouvons en profiter pour parfois vous accorder des libertés et parfois vous les supprimer. Et c'est cette mise en cause de ce socle démocratique et juif. Israël, la nation juive est une nation ethnique. Et le problème d'une nation ethnique, c'est qu'elle a du mal à garantir l'égalité. Cette loi, c'est un verrou qui a sauté. Pour la première fois, on n'a plus cette garantie démocratique et de la démocratie et de l'égalité inscrite dans le marbre de la loi.
Je suis vraiment en total désaccord avec Denis Charby. Je pense au contraire que cette loi est une clarification. Elle vient effectivement réaffirmer des choses qui sont évidentes pour la plupart des citoyens d'Israël, qu'ils soient juifs ou arabes. Israël est effectivement un État juif. Son symbole, c'est la menorah, le chandelier à sept branches, la langue et l'hébreu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du député arabe, de l'ancien député Ahmed Tibi. Il dit « Israël, c'est un État démocratique pour les juifs et juif pour les arabes ». On voit immédiatement immédiatement la contradiction entre ces deux termes. Même si vous le disiez, effectivement, c'est une tentative d'équilibre permanente entre ces deux dimensions.
Et d'un autre côté, vous dites vous-même qu'il y a une intégration, que les Arabes peuvent voter et que cet État juif pour les Arabes israéliens, plus hostiles à Israël, veulent surtout pas bénéficier d'un échange de territoire.
Effectivement, parce qu'au niveau individuel, les Arabes y trouvent leur compte. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est cette dichotomie entre le niveau individuel et national chez les Arabes. Évidemment qu'au niveau individuel, ils y trouvent leur compte, puisqu'ils vivent dans un des États les plus développés au monde, dans lesquels ils peuvent s'épanouir, pratiquer leur religion. J'ai interviewé dans mon livre l'imam de la mosquée blanche de Nazareth, qui est un islamiste, qui est proche des frères musulmans, qui se trouve parfaitement bien sous souveraineté israélienne, puisqu'il est dans une démocratie. Ses enfants servent même dans l'armée israélienne, dans la police. Mais au niveau national, il se définit très clairement comme un Palestinien, comme un musulman. C'est peut-être un petit peu difficile à comprendre quand on est français, mais il y a vraiment chez eux, eh bien, ces deux dimensions qui coexistent. Et donc, pour en revenir sur cette loi État-nation qui a donc été votée au terme de 7 ans d'élaboration, c'est assez rare en Israël. C'est une loi qui a été extrêmement pensée. Elle va dans la droite ligne de ce que je décris dans le livre, c'est-à-dire qu'elle vise à préparer l'annexion.
Mais les quand Israël, avec la déclaration d'indépendance.
Elle vient verrouiller, comme c'est une loi fondamentale qu'il faudra une majorité qualifiée pour la défaire. Elle vient verrouiller le caractère juif d'Israël, quel que soit le rapport démographique entre juifs et arabes. Elle vient dire, eh bien oui, Israël est un État juif, c'est le seul État juif de la planète. Il y a d'autres États arabes, d'autres États musulmans dans la région.
Si le rapport démographique s'inverse, cet État juif, comment pourra-t-il justement rester juif et démocratique?
Alors c'est évident que si les Arabes sont plus nombreux, s'il y a plus
d'arrivants,
on en est très très loin. Actuellement, entre la mer et le Jourdain, si on exclut Gaza, on est dans un rapport de 70-30.
Alors on parlera de Gaza tout de suite, mais je réfléchis aux raisons qui ont pu pousser le gouvernement israélien à introduire cette réforme. Et vous parlez dans votre dernier livre, Denis Charby, de la révolution constitutionnelle en 1992 qui a étendu le droit de saisine à des associations. Résultat, recours massif à la Cour suprême. Vous dites, et on connaît ça dans plusieurs pays occidentaux, qu'on assiste à un déplacement de l'action politique vers l'action judiciaire. Mais justement, cette action judiciaire, peut-être, elle aboutirait à une sorte de mise en cause, au nom de la démocratie, du caractère juif d'Israël. N'est-ce pas à cela que cette loi aussi voulait répondre? Donc une manière de faire face à un activisme judiciaire qui pouvait inquiéter certains responsables israéliens. Denis Charby.
Je pense effectivement ça fait partie des raisons pour lesquelles on a établi cette loi en excluant le principe de l'égalité et le principe de la démocratie de cette loi, car encore une fois c'est ça pour moi le problème qu'elle pose. Mais je ne suis pas sûr, et même je suis absolument certain, que la Cour suprême ne s'apprêtait pas dans les circonstances actuelles ni à modifier le drapeau ni à modifier l'hymne national. Mais en revanche, voilà une première tentative, et ce n'est pas la seule. À la limite, je dirais que c'est pas la loi comme telle qui me pose problème, mais le fait qu'on est dans un climat où de plus en plus de lois sont faites pour limiter les contre-pouvoirs, dont la Cour suprême.
Alors,
et la presse.
Moi, je ferai peut-être aussi une autre critique, parce que les mêmes qui veulent inscrire dans le marbre le caractère juif d'Israël, par ces projets d'annexion, disons, affaiblissent et même travaillent à la déjudéisation d'Israël. Alors, il y a peut-être le rapport démographique qui est favorable à Israël, mais 60-40, c'est plus du tout un État juif. Quant à l'espérance d'une grande alia française, je crois qu'il faut la doucher tout de suite. On le voit aujourd'hui, il y a des déplacements de population très forts en France, enfin très forts, assez forts en France, parce que la situation des Juifs est alarmante et de plus en plus précaire. Mais comme l'a dit le Premier ministre Édouard Philippe, on assiste à une alia intérieure. Les Juifs français ne vont pas tant en Israël que dans des communes, dans des cités, dans des villes où ils se sentent plus en sécurité.
Non, je dis simplement qu'Israël scrute ce qui se passe en France et espère effectivement un mouvement d'alia, un mouvement d'immigration vers Israël. Nul ne sait de quoi sera fait l'avenir. Je ne dis absolument pas que cela va se produire. Maintenant, Alain Finkielkraut, vous êtes un défenseur de l'identité française. Vous avez écrit beaucoup là-dessus. Vous ne pouvez pas dire que renoncer à la Cisjordanie, pour des Juifs, c'est cohérent avec une défense de l'identité juive. Je vous rappelle encore une fois que la Cisjordanie, c'est Hébron, c'est Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem, le mur des Lamentations, est en territoire occupé, est en Cisjordanie. Donc ce que vous dites, c'est si vous voulez préserver votre identité juive, sortez des territoires, renoncez à la Cisjordanie. Mais c'est absolument impossible. C'est comme si vous demandez à des Français de renoncer à la basilique Saint-Denis au prétexte que dans le 93, les musulmans sont désormais plus nombreux que les chrétiens. Ça paraîtrait complètement absurde. Oui, est-ce que parce que la démographie est défavorable aux juifs dans cette région-là, on doit en faire un Judenrein, comme le demande Mahmoud Abbas?
Non, on ne doit pas en faire un Judenrein, mais je vais vous opposer deux citations, Stéphane Hamar. La première, d'Elie Barnavi. L'occupation qui engloutit des sommes gigantesques, quelque 500 millions de dollars par an, sans compter les dépenses militaires et sécuritaires, 100 milliards en tout depuis ses débuts, dont elle prive un État-providence, un réseau scolaire, universitaire et un système de santé en pleine déliquescence. L'occupation qui distend le ressort moral de la société israélienne et ronge de l'intérieur sa démocratie, car il est vain d'imaginer que l'on puisse indéfiniment conserver intactes des structures démocratiques en deçà de la ligne verte, alors qu'on tolère un état d'absolue anomie au-delà. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura la démocratie avec l'annexion, mais vous l'avez reconnu, on va plutôt vers la perpétuation du statu quo dans les années à venir, ce qui est quand même un problème. Et donc, moi, j'en reviens, et j'en reviens toujours, c'est vrai, à une réflexion de Jacob Talmon, le très grand historien israélien, dans une lettre ouverte à Menachem Begin, publié dans Haaretz et plus tard dans Le Débat, je crois en 1981, de nos jours, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples est bien que cela puisse paraître ironique et décevant de les séparer. Car une démocratie formée de deux peuples, intriqués et quand même hostiles l'un à l'autre, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Voilà ma réponse.
Alors, je vous répondrai d'abord sur l'hostilité, qu'elle n'est pas aussi profonde qu'on le croit. Encore une fois, la réalité nous le montre tous les jours. Chacun qui est venu visiter Israël sait très bien que les Juifs et les Arabes vivent ensemble au quotidien. Vous trouverez des Arabes à l'hôpital, vous trouverez des Arabes dans les centres commerciaux. Il y a des villes binationales comme Jaffa dans la banlieue de Tel Aviv ou Haïfa. Il n'y a donc aucune hostilité, j'allais dire, de principe entre ces deux peuples. Deuxièmement, on parle de deux ou trois départements français, c'est une surface minuscule, on parle de moins de 10 millions d'habitants en tout. Je vois mal comment créer deux États avec cette imbrication de population. On a essayé, ça a terminé réellement par une catastrophe, donc il faut absolument imaginer d'autres solutions.
Alors, d'abord, je constate que vous n'en avez pas. C'est-à-dire, il faut imaginer d'autres solutions. Ça veut dire que, actuellement, en dépit du fait que la solution des États ne trouve pas beaucoup de partenaires dans le gouvernement israélien et pas beaucoup d'alliés non plus aux États-Unis.
Et surtout, il n'y en a aucun chez les Palestiniens.
Mahmoud Abbas reste encore tout à fait attaché à cela. Et la majorité, vous le dites vous-même, un tiers seulement soutient un État binational.
Non, mais vous
disiez,
c'est 22% de la Palestine. Bon. Aucun Palestinien ne peut accepter ça. C'est inacceptable pour les Palestiniens.
Je ne suis pas sûr. En tout cas, je vais vous dire la vérité. Si je pouvait avoir un pouvoir, c'est celui de faire un référendum en Palestine et en Israël, et au moins on serait fixé une fois pour toutes, parce que souvent on réfléchit sur des chiffres qui sont approximatifs. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette hubris israélienne dont vous êtes un petit peu le porte-parole, c'est-à-dire, voilà, on a la puissance, on a la technologie, et je crois qu'il manque beaucoup de sagesse juive dans ce sentiment-là du colosse comme ça. Le colosse a des pieds d'argile, tout le judaïsme s'est fait sur une certaine prudence vis-à-vis de la puissance.
Si vous parlez du roi David, il a mis la région à feu et à sang, et je crois pas qu'il ait fait preuve de beaucoup de sagesse dans les guerres qu'il a menées,
Et c'est la raison pour laquelle je vois dans ce projet-là dont vous parlez une sorte d'hégémonie israélienne. Si ça se fait dans la coopération entre les deux peuples, allez, pourquoi pas, j'y vais. Mais c'est pas ça qui se passera.
Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, je crois au rapport de force. Je crois qu'on est là, et c'était l'analyse d'Alain Frachon dans Le Monde cette semaine. Il expliquait un petit peu la position de Trump par rapport aux Palestiniens. Il disait que pour Trump, les revendications des Palestiniens sont un petit peu farfelues, puisque finalement, ils n'ont aucune carte dans leur jeu. C'est un peuple d'abord qui est divisé entre le Hamas et l'autorité palestinienne, le Fatah. C'est un peuple qui n'a quasiment plus aucun soutien international. Même l'Arabie Saoudite maintenant est du côté d'Israël, qui n'a pas d'armée, qui n'a plus de leader charismatique comme c'était le cas avec Yasser Arafat, et qui voudrait quelque part obtenir la moitié de ce territoire qu'Israël n'est absolument pas prêt, n'a jamais été prêt d'une certaine manière à lui donner. Donc effectivement, il y a un déséquilibre des rapports de force qui mécaniquement, je dirais, fait que c'est Israël qui a toutes les cartes en main et qui dicte les conditions de la paix, ce que j'explique dans le livre, et qui conduit petit à petit la région vers cette annexion, et qui, d'un autre côté, il faut le dire, c'est important, on va sans doute en parler, mais négocie avec le Hamas, veut négocier avec le Hamas. C'est Mahmoud Abbas qui essaie de torpiller ces négociations, mais Israël, puisque le Hamas est fort, à l'inverse, le Hamas, lui, a une armée, résiste à Israël, donc peut revendiquer un territoire, et va sans doute l'obtenir.
Oui, alors justement, le Hamas est fort, le Hamas a gagné les élections de 2006, ensuite il y a eu ce coup d'État à Gaza dont vous parlez, Stéphane Hamar, et si des élections ne sont toujours pas organisées depuis lors, c'est parce que le Hamas risquerait très fort de l'emporter. Mais ça nous pousse à nous interroger sur la nature de l'identité palestinienne, parce que dans la charte du Hamas, il y a cet article... la terre de Palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est illicite d'y renoncer, en tout ou en partie, de s'en séparer en tout ou en partie. La question est de savoir quelle est la communauté de référence pour les Palestiniens aujourd'hui. Est-ce la communauté nationale? Est-ce l'Oumma, la communauté des croyants? Si c'est la communauté des croyants, alors on peut se dire qu'il y a aussi un piège pour les Israéliens content de leur puissance, c'est-à-dire le piège que les Arabes palestiniens risquent d'accepter l'annexion en se disant que c'est un premier moment d'un processus long, très long, de reconquête, puisqu'ils se sentent plus musulmans que palestiniens. Et donc les Israéliens, dont certains d'entre eux voulaient construire une muraille de fer, comme disait Jabotinsky, pour les séparer des Arabes, laissent entrer des Arabes à l'intérieur de l'État, une population de plus en plus importante, jusqu'au moment où les proportions se renverseront. Voilà pourquoi je crois que la solution de Talmon est plus prudente que celle que sa puissance inspire aujourd'hui à Israël, aidé par Trump.
J'ignore de quand date le texte que vous avez cité, mais je pense qu'il a déjà quelques décennies. Talmon parlait peut-être effectivement à un moment où Israël était en position de faiblesse, y compris démographique. Mais ce que je décris dans le livre, c'est une évolution de la situation, de sa situation démographique, mais aussi de sa situation militaire, de sa situation diplomatique. La géopolitique a changé autour. Si l'ambassade américaine s'est déplacée de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pas du fait du lobby juif américain qui est extrêmement hostile à ce déplacement, c'est du fait du lobby évangéliste qui pousse Donald Trump à de plus en plus de gestes en faveur d'Israël et de gestes contre les Palestiniens. Ça aussi, ça compte. Donc, si vous voulez, il y a tout un contexte qui a changé, qui fait que cette solution, ce partage du territoire, n'a plus aucune pertinence aujourd'hui.
Que la conjoncture actuelle ne soit pas favorable aux deux États, je vous le concède et on serait mal placé de penser qu'il en est autrement. La vérité, c'est que les Israéliens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les Palestiniens non plus. Les Palestiniens hésitent entre un État sur 22% de la Palestine, mais un État dans lequel il n'y aurait plus de checkpoint, il n'y aurait plus d'implantation, il n'y aurait plus de...
22%, ça inclut Gaza, hein.
Oui, je sais bien.
Qui est en guerre depuis 10 ans avec l'autorité palestinienne.
Sans Gaza, ça fait 20%, hein, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, ou un État binational dans lequel, effectivement, on a gardé l'unité territoriale, encore une fois, c'est Camus qui disait dans Le Premier Homme, un homme, ça s'empêche. Il faut être capable parfois de limiter son droit. Le malheur de ce conflit, c'est Camus qui le rappelait dans un discours prononcé à Athènes sur l'avenir de la tragédie. Il dit, il y a conflit lorsqu'on dépasse la limite. Lorsqu'on pense, je cite ici la phrase, pour faire triompher un droit qu'il croit être le seul à avoir. Le problème du conflit, c'est que les Palestiniens pensent qu'ils sont les seuls à avoir des droits sur cette terre. Et nous sommes de plus en plus nombreux en Israël à penser que seuls les Juifs ont un droit sur cette terre. Alors, on peut en 1947, à l'ONU, on a proposé les deux solutions. Soit on partage la terre parce que finalement c'est plus sûr, et c'est vrai que ça n'a pas abouti, mais ça reste encore la solution raisonnable. Soit on partage le pouvoir, mais c'est partager le pouvoir avec toutes les implications que cela signifie. Est-ce que vous y êtes prêts? Est-ce qu'on y est prêts? Et c'est là où je pense que cette ambiguïté israélienne sur fond de Trump et de Poutine, Erdogan et toute cette coalition-là, dans lequel c'est la loi du plus fort. Mais on n'a pas dit un mot sur l'occupation, parce que pendant ce temps-là, l'occupation persiste, et elle est fondée sur quoi? Sur l'intimidation. Elle est fondée sur l'humiliation. Et ça, non seulement moralement, c'est problématique, mais c'est surtout que à long terme, ça se retournera contre nous.
Et que deviendra Gaza, justement? Parce que vous dites vous-même que si un État binational voit le jour, si une alternative existe à la solution de deux États, ça ne peut se faire que sans Gaza. Or, Gaza, démographiquement, si vous voulez, est dans une situation très différente de la Cisjordanie. Il y aura toujours plus d'habitants. Les prévisions sont, je ne sais pas, à 3 ou 5 millions dans les décennies à venir. Alors, que va devenir Gaza? Est-ce que ce ne sera pas, de toute façon, une poudrière aux portes d'Israël? Stéphane Amar.
Non, parce que d'abord, il n'y a pas de mélange de population. Il n'y a que des Palestiniens à Gaza, essentiellement sunnites. Donc, depuis le retrait de 2005, effectué par Ariel Sharon, Gaza deviendra l'État palestinien. À cet égard, le titre de mon livre n'est pas tout à fait juif. Il y aura un État palestinien. Ce sera Gaza. Il y a des négociations extrêmement avancées avec l'Égypte et la Turquie pour desserrer l'étau autour de Gaza, tout en garantissant la sécurité d'Israël. On envisage au plus haut niveau du gouvernement, du Likoud, de construire un port à Gaza, peut-être un port en haute mer, peut-être même un aéroport. Le Hamas a déjà dit qu'il accepterait une trêve, ce qui correspond en vérité à une paix, parce que du point de vue islamique, le Hamas ne peut pas faire la paix avec Israël, mais il peut déclarer une trêve de longue durée. Les Palestiniens évolueront dans cet espace qui n'est absolument pas le plus densément peuplé au monde. C'est un des grands mythes médiatiques, mais on peut très bien vivre à Gaza avec la population qui s'y trouve actuellement. Shimon Peres voulait en faire un nouveau Singapour, pourquoi pas ?
Stéphane, quels sont les partenaires politiques palestiniens que vous avez aujourd'hui qui souscriraient à cette idée que vous défendez aujourd'hui ?
Étaient les partenaires politiques palestiniens en 1949, quand Israël a expulsé 700 000 Palestiniens de leur village, et qu'il a Benny Morris l'explique très bien, je le cite longuement dans le livre, on le sait maintenant, on a raconté longtemps aux enfants que ces gens étaient partis tout seuls.
Certains sont quand même partis d'accord. à la demande des leaders. Il ne faut pas renverser une guerre, il y
a une guerre extrêmement dure, on le sait très bien maintenant aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un des grands paradoxes, mais qui s'explique, c'est Yitzhak Rabin et Moshe Dayan, ce sont des travaillistes qui ont sur le terrain expulsé ces gens, ils l'ont fait à Lod, ils l'ont fait à Ramle. À ce moment-là, où étaient les leaders palestiniens? C'est Israël qui a décrété unilatéralement en 1949 que les frontières allaient être fermées aux réfugiés et qu'on allait donner la nationalité aux Arabes qui se trouvaient là. Ils l'ont accepté, sans aucune acceptation d'aucun leader que ce soit. C'est exactement la même chose qui va se passer pour le reste du territoire.
Écoutez, nous verrons bien, enfin, ceux qui vivront plusieurs décennies encore. Je renvoie cela et les autres à la lecture de vos deux ouvrages. Stéphane Amar, Le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, aux éditions de l'Observatoire. Denis Charby, vous avez publié Israël et ses paradoxes dans une maison d'édition qui s'appelle Le Cavalier Bleu. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Une politique écologique est-elle possible ?» Mes invités seront Catherine Larère et Marc Fontecave. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.